finito. Alors, dernier effort où je vous propose, toujours à Corinthe, comme ça on ne change pas de lieu, mais d'entrer dans des problèmes un petit peu plus d'organisation, parce que d'entrer en ecclésiologie, il faut aussi que l'Église s'organise, un petit peu plus dans des problèmes d'organisation, de rôle, de la façon dont on peut gérer, au fond, la vie quotidienne et ses difficultés dans l'Église, notamment dans cette Église de Corinthe. Alors, en fait, et ça c'est votre dernier document, je n'irai pas jusqu'au bout, parce que je n'ai pas le temps, mais vous avez le texte, et en plus vous avez plein une série d'explications après. Donc, sachant que généralement je n'arrive pas jusqu'au bout, vous avez après les deux pages de texte, deux pages d'explications qui vous permettront de continuer tout seul. Voilà. Plus sur le plan une conclusion que je ne ferai peut-être pas, peu importe. Nous entendons, alors la lettre aux Corinthiens, après ce porche des chapitres 1, 2, 3, dont nous avons lu qu'une petite partie, mais ça ne fait rien. La lettre aux Corinthiens, et ensuite, à partir du chapitre 5, des réponses à une série de questions qu'ont posées les Corinthiens, pas nécessairement au même moment. Les chapitres 5 et 6 sont probablement des réponses dans un premier temps, avec des choses surprenantes dans la façon dont Paul se situe, avec probablement un peu de dureté et un peu de rigueur vis-à-vis dans une petite communauté où il fallait surtout éviter de retomber dans le paganisme ambiant. À partir du chapitre 8, on entre davantage dans les problèmes de la partage des tables. Il n'est pas dit immédiatement que c'est avec les judéo-chrétiens, mais parce qu'on est en contexte corinthien, mais il s'agit de savoir si on peut ou non manger des viandes sacrifiées aux idoles. Réponse première de Paul, puisque les idoles n'existent pas, ben vous pouvez bien manger tout ce que vous voulez. On sacrifie des viandes aux idoles, d'accord, mais les idoles c'est rien, donc mangez la viande tranquillement. Puis après, il dit non, parce qu'il y a des gens que ça scandalise. Il y a des chrétiens qui viennent soit du judaïsme, soit d'un paganisme récent, et qui ont l'impression que du coup on retombe sous l'emprise finalement des divinités auxquelles ces viandes ont été sacrifiées. Et donc on est à nouveau dans la peur de ce divin toujours prégnant, de ces forces obscures toujours prégnantes dans le monde polythéiste. Et donc eux, ça leur fait peur. Dans ce cas-là, laissez tomber, n'en mangez pas, et puis voilà. Donc il y a tout un développement là autour assez riche, en Corinthiens 8, 9, 10, 11, et à partir du chapitre 11, tout en travaillant toujours sur le fait que ce qu'il faut respecter, c'est le corps de l'autre. Et le corps de l'autre, c'est sa personne. Le corps de l'autre, c'est sa personne. Et il faut respecter aussi le groupe, et c'est ce qu'on va voir maintenant comme corps, parce que ce que le groupe chrétien partage dans son repas, c'est le corps du Seigneur. Quand il mange le pain, quelque part il partage le corps du Seigneur, on va lire ça. Mais avant de lire ce bout de chapitre 11, on va démarrer un peu plus loin par le chapitre 12 à 14 avec une question très concrète. Parce que c'est toujours pareil. Paul part d'une question très concrète et après il les emmène ailleurs. Et il brasse au fond des piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Pour répondre finalement à leurs questions, fichez-moi la paix, vos questions ne sont pas intéressantes. Voilà. Alors, la question pas intéressante pose, c'est savoir à nouveau et toujours à Corinthe, qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le meilleur. Voilà. La question c'est toujours la même. Et est-ce que les meilleurs, c'est pas ceux qui sont capables de ces phénomènes spirituels, ou qui reçoivent ces phénomènes spirituels extraordinaires, des pneumatiques, alors c'est pas des pneus, hein, ni Michelin, ni Dunlop, c'est des phénomènes spirituels. Ils parlent en langue dans l'assemblée, tout d'un coup ils se mettent à parler, à prier Dieu dans des langues impossibles, on comprend rien, mais enfin bon. Mais Paul dit qu'il l'a fait, hein. C'est pas, il ne méprise pas. Méprise pas vraiment, il se moque un peu. Ou alors ils prophétisent, c'est-à-dire qu'ils reprennent très justement la communauté pour ce qu'elle fait de mal, ils l'exhortent à bien faire, etc. Est-ce que ceux-là ne seraient pas les plus grands? Est-ce que finalement ce n'est pas ceux-là qui peuvent suivre, honorer, etc. Alors, Paul répond non. Et comme toujours, il va recadrer la question et les emmener ailleurs. C'est le début de ce chapitre 4 qui commence au sujet des phénomènes spirituels. Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. Tout le début est sur le ton ironique. C'est des gens qui prétendent savoir. Il leur a donné un chemin de connaissance de Dieu et du divin. Et il leur dit « Vous êtes des ignorants ». Il leur rappelle que quand ils étaient païens, vous adorez les idoles. Lorsque vous étiez païens, vous étiez comme entraînés auprès des idoles muettes. Voilà. Ils se moquent un peu d'eux. Ils leur rappellent d'où ils viennent. C'est pourquoi, et là c'est ce à quoi il faut se raccrocher, je vous fais savoir que personne, s'il parle dans l'Esprit Saint, ne dit « Jésus est anathème », personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » sinon par l'Esprit Saint. C'est la profession de foi commune, Jésus Seigneur, qui les rassemble tous. À partir de là, il va repartir sur ces fameux phénomènes spirituels, mais en disant « Mais non, il n'y a pas que des phénomènes spirituels, il y a des tas de dons de l'Esprit Saint. Et chacun va en être doté d'un don, service, activité. » Alors, je vous lis le texte et regarde comment il fonctionne. « Il y a diversité de dons de l'Esprit, mais c'est le même Esprit. Il y a diversité de services, mais c'est le même Seigneur. » Il y a diversité d'actions, mais c'est le même Dieu qui met en œuvre tout en tous. Est-ce qu'on est dans une déclaration trinitaire? Je n'ai pas de réponse. En tout cas, la question se pose. Donc, il y a diversité de dons, de services, d'activités, de mise en œuvre, mais c'est toujours le même un, Dieu, Seigneur, Esprit, qui agit. À chacun est donnée une manifestation de l'Esprit en vue du bien commun, et ça va être le critère. À l'un, en effet, par l'Esprit, est donnée une parole de sagesse. À l'autre, une parole de connaissance, conformément au même Esprit. À un autre, la foi dans le même Esprit. À un autre, des dons de guérison dans l'unique Esprit. À un autre, des actes de puissance. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, des genres de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais tout cela, c'est l'unique et même Esprit qui le met en œuvre en distribuant à chacun selon qu'il veut. Vous avez compris qui est le plus grand ? Ouais. Non, non, non. Il y a un unique Esprit qui donne à chacun diversement, sans ordre, sans hiérarchie, sans privilège. Et il le fait exprès. Il fait exprès de brouiller toutes les pistes qui pourraient conduire vers l'idée d'une hiérarchie possible, d'un privilège possible, d'une supériorité possible. Il brouille tout. Si on est très méchant, on peut dire qu'il fait apparaître la prophétie un peu tard et le parler en langue à la fin. Mais ça, c'est vraiment de la méchanceté. Parce qu'en fait, il essaye de montrer qu'il n'y a rien de privilégié. Chacun reçoit un don de l'Esprit différent et aussi valable, aussi digne, aussi important, aussi nécessaire que les autres. Alors, il y a non seulement un brouillage des dons, mais un brouillage du vocabulaire. On ne peut pas parler, on parle de phénomènes spirituels, mais dons, services, actions, ils refusent qu'il y ait une organisation, même dans l'ordre des fonctions. Il ne dit pas si les dons sont ponctuels ou durables. Celui qui a une parole de sagesse, est-ce que c'est une fois de temps en temps ou est-ce que c'est tout le temps? Celui qui a un don de guérison, est-ce que c'est une fois de temps en temps ou est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est éphémère, ponctuel, de temps en temps? Est-ce que c'est institué dans la communauté? Il refuse absolument de répondre à toutes ces questions. Et c'est intéressant parce que nous, on passe notre temps à instituer des grades, des ordres, des trucs qui durent, des machins durables, c'est à vie, c'est pas à vie, c'est pour 3 ans, la lettre de mission, elle est pour ceci, pour cela. Alors, on fait peut-être très bien. En tout cas, ici, il dit tout ça, non, j'en veux pas. Première chose qu'il dit, c'est tout ça, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que à Corinthe, il fallait remettre au centre l'essentiel. Tous sont également doués d'un don de l'Esprit Saint. Et la personne qui arrange les fleurs, autant que celui qui prophétise, autant que celui qui enseigne, autant que celui qui mène la prière, autant que celui qui fait l'homélie ou celui qui balaye après la séance. Chacun a son don. Autant que celui qui apparaît là une fois ou que celui qui vient régulièrement. Voilà, ça c'est très important. Parce que c'est vraiment une façon de refuser, au fond, devant l'Esprit de Dieu, le fait qu'il y a une hiérarchie. Il n'y a pas d'église enseignante et d'église enseignée, il n'y a pas de hiérarchie devant l'Esprit. Il y a un critère, alors ça oui. Le critère, c'est que ce n'est pas vous qui décidez, c'est l'Esprit. Il y a deux critères. Un, c'est selon qu'il veut, comme il veut. L'Esprit a chacun selon qu'il veut. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui décidez. Moi, je suis doué pour ça. Vous vous découvrez parce que c'est la volonté de Dieu, doué pour ça. Ou pas doué pour telle autre chose. Mais voilà, ce n'est pas vous qui avez décidé. Faites avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de vouloir avoir le don d'un autre. Vous en avez un, cherchez bien. Deuxième critère plus important, c'est en vue du bien commun. Si ce n'est pas en vue du bien commun, alors vous êtes sur une fausse route. Je crois que c'est vraiment ces deux choses qu'il faut garder en mémoire de cet enseignement de Paul. Alors ensuite, il va un peu le délayer, on va avancer un peu. Mais si vous pouvez garder en mémoire ça, c'est très important. Je ne dis pas qu'il faut le transposer bêtement aujourd'hui en disant « Allez, c'est la vaste pagaille et tout le monde fait ce qu'il se sent de faire. » Ce n'est pas là le problème. Mais lorsque des questions de préséance, de primauté, de hiérarchie se posent, il faut se rappeler quand même le « ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni l'homme, ni la femme » et se rappeler « C'est l'Esprit Saint qui donne à tous et à chacun, selon qu'il veut, en vue du bien commun. » Voilà. Et tous sont également digne d'un don qui est le leur et pas celui d'un autre. On pourrait aussi dire aussi que l'Église tout entière est don de l'Esprit Saint et vit du don de l'Esprit Saint. Alors, ce qui en plus a compliqué le problème et les problèmes ecclésiologiques, mais ça, je laisse ça à Anne, c'est que le don en grec, ce don de l'Esprit au sens large, tous ces dons de l'Esprit, ça se dit charisma. Charismata, qu'on a traduit bien sûr par charisme. Oui. Et oui, mais alors les charismes, qu'est-ce que c'est? C'est devenu des choses très variées dans les communautés. Le charisme de tel mouvement religieux, le charisme de tel autre. Ça permet de distinguer, on oublie un peu qu'au début c'est simplement le don de l'Esprit Saint à chacun. Et puis, dans la sociologie du 19e siècle, Max Weber et la suite, le charisme c'est devenu le don particulier de l'homme charismatique, qui, tempérament de chef, orateur et capable d'entraîner les foules, est devenu le fondateur d'un groupe, d'une religion, d'un mouvement, etc. Et qui a transmis son charisme aux autres. Et Paul est loin de tout ça. Oui, le chef a un charisme, a un don d'esprit. Mais ce n'est pas mieux que le charisme de celui qui se tait parce que de temps en temps, il faut savoir faire silence. Voilà. D'accord ? Donc ça reste non pas comme un modèle, ça reste comme une espèce de borne, de signal d'alarme. Méfions-nous quand ? Et Paul, là, nous le rappelle bien. Ça, c'est la première partie de ce chapitre qui va continuer sur le même thème, mais en élargissant cette idée de la diversité des dons à une image qui va être celle de l'ensemble de la communauté chrétienne, qui est l'image du corps, voilà. Pour illustrer et élargir l'idée d'une diversité de dons, tous donnés par l'Esprit, tous différents, tous nécessaires, tous complémentaires et sans hiérarchie, Paul va se lancer dans une image qui va faire fortune dans l'histoire de l'Église, mais être aussi riche de déviance et de catastrophes. Enfin, c'est quand même une image extrêmement belle et riche, celle du corps du Christ. Et c'est la suite du texte qui commence au verset 12 par « De même, en effet, que le corps est un, corps humain, et a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps étant plusieurs sont un seul corps, de même aussi, non pas l'Église, mais de même aussi le Christ. » Et à part ça, la question est posée, qu'est-ce que c'est que le corps du Christ et qu'est-ce que c'est que cette diversité des membres du corps du Christ? Alors, je crois que pour le développement qui suit, Paul a deux sources. La première source, l'essentiel, il y est fait allusion dans le verset 13. En effet, c'est dans un seul esprit que tous nous avons été baptisés pour former un seul corps. Donc on forme un seul corps parce qu'on est animé d'un seul esprit, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves, l'homme libre, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Il a évacué l'homme et la femme parce que pour lui le problème est réglé. Tout le monde est égaux. Donc que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ce lien, il y a un seul corps parce que vous avez été baptisés dans un seul esprit, que vous avez été nourris à la table du Seigneur dans le même esprit, il va s'en servir pour dire que nous formons les chrétiens tous, grâce à cet esprit du Christ, un seul corps, et que, il le dit en deux temps, ce corps est celui du Christ. C'est un peu compliqué, et je crois que pour ça, il s'appuie pour sortir cette image du corps du Christ, d'où est-ce qu'il le sort. C'est pas le corps crucifié, même si ça l'est aussi. Le soma, en grec, c'est d'abord quelque chose de très matériel. C'est pas le cadavre, mais c'est de l'enveloppe de boue. C'est l'idée que, et ça y est beaucoup dans la mémoire grecque, c'est l'idée déjà pythagoricienne du jeu de mots soma sema. Le corps, c'est un tombeau. Voilà. Le corps, c'est un tombeau dont il faut se libérer pour que l'esprit ou l'âme puisse se développer. Et Paul va reprendre ce mot et le transformer complètement en faisant la personne vivante du Christ capable de s'élargir à la dimension de la communauté. D'où est-ce qu'il sort le mot ? Je crois vraiment qu'il le sort non pas tant d'une tradition grecque que d'une tradition déjà chrétienne qui le précède du repas du Seigneur. C'est là qu'il va le chercher. Et cette tradition, il l'a énoncée, il y a fait écho dans le chapitre précédent, dans les chapitres précédents, au chapitre 10 et au chapitre 11. Alors, je ne vous lirai pas le chapitre 11, c'est compliqué, il faudrait reprendre tout le problème du repas du Seigneur chez Paul. Mais je vous lis un petit passage du chapitre 10, il est sur le PowerPoint, qui est un peu perdu au milieu d'un chapitre qui traite des repas communs. Et pourquoi il ne faut pas aller participer trop vite au sacrifice au temple. On risque de retomber dans l'idée polythéiste et de la crainte des divinités, des idoles. Et d'ailleurs, dit Paul, on voit bien à quel point c'est important le repas pris ensemble. Pensez au repas du Seigneur. Vous voyez, le repas du Seigneur devient un exemple pour penser à quel point prendre un repas ensemble en l'honneur d'une divinité, ça vous soude. Et du coup, on a deux versets isolés comme ça au milieu du chapitre sur le repas du Seigneur, parce que c'est quelque chose qu'il connaît et qu'il amène là au milieu. Et donc il dit aux Corinthiens, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas participation au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas participation au corps du Christ ? Participation, c'est koinonia, c'est la communion. Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes, à plusieurs, un seul corps, puisque tous, nous avons part à l'unique pain. Vous prenez ça et vous le moulinez dans votre tête pendant 15 jours, un mois, un an, pour essayer d'en sortir quelque chose. Parce que c'est incroyable tout ce qu'il dit là-dedans. Tout ce qu'il dit là-dedans. On voit bien que derrière, il y a la tradition du repas du Seigneur, qu'il va d'ailleurs citer dans le chapitre suivant. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu, et il a, pour les paroles du repas du Seigneur, la même tradition que Luc. C'est probablement la tradition la plus ancienne. Marc et Matthieu, il y a une tradition un peu différente, plus ritualisée, plus formalisée. Donc, il connaît la tradition des paroles du Seigneur, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi, et il le connaît comment ? Eh bien, il vous dit, je l'ai reçu du Seigneur. Voilà, je vous ai transmis ce que j'ai reçu du Seigneur. Alors, imaginez pas qu'il y a eu une révélation en direct la nuit où le Seigneur lui a raconté des histoires. Quand Paul vous dit, il a reçu du Seigneur, ça veut dire des communautés chrétiennes qui célèbrent le Seigneur vivant. Quand il vous dit, je vous ai transmis ce que j'ai reçu du Seigneur, ce n'est pas du tout par une mystérieuse révélation. Luc le dit très bien dans le récit de Damas, puisque la vision de Jésus, c'est la vision du Seigneur qui lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul ne persécute pas du tout Jésus, Jésus est mort depuis un bon moment. Il persécute les communautés. celui qui l'appelle. Le Seigneur, c'est le Seigneur vivant dans les communautés qui lui ont transmis les paroles de ce repas. Donc il connaît les paroles et ici, il médite dessus rapidement en disant qu'il y a une coupe de bénédiction que nous bénissons et qu'elle est participation, koinonia, communion, par prise au sang du Christ. Le pain que nous rompons, donc il y a un pain rompu et dans l'évangile de Luc et dans les actes, on ne parlera jamais du repas du Seigneur que sous la forme de fraction du pain. Rappelez-vous Emmaüs. Le pain que nous rompons, et c'est le même mot, n'est-il pas participation au corps du Christ ? Voilà, le repas eucharistique, la coupe, hein, c'est une participation au sang et au corps du Christ, le sang désignant la vie, toujours, en monde juif, le corps désignant pour Paul la personne vivante. La personne vivante, c'est pas le cadavre, hein, on n'est pas en train de faire acte d'anthropophagie.
17.
Vous n'avez pas là le petit texte devant les yeux ? Mais il est là.
Oui, non, mais je...
Mais vous avez tout ça, mais vous avez tout ça sur votre feuille, ne vous inquiétez pas. Tout ça est écrit. Vous le retrouverez. Vous le retrouverez. Voilà. Non, mais c'est sur le plan. Et il va conclure, puisqu'il y a un seul pain, il a laissé tomber la coupe pour le moment, pour lui c'est une seule même chose, nous sommes à plusieurs un seul corps. Puisque nous avons part à l'unique pain. Il est en train de dire qu'en participant au même corps qui est au fond, se fait cette participation au corps du Christ, au sang du Christ, par le partage du pain et par la bénédiction de la coupe. Puisqu'il y a cela, du même coup, vous êtes constitués en un seul corps. Autrement dit, il ne sépare pas, et pour lui, l'un induit immédiatement l'autre, le corps qu'il ne nomme pas, le corps du Christ, que nous appelons le corps eucharistique, la participation au corps du Christ par la fraction du pain, le partage du pain, il ne sépare pas ce corps-là du corps que nous appelons ecclésial, qui se constitue de ce fait même. Nous sommes à plusieurs un seul corps. Pour Paul, il n'y a pas de séparation entre les deux. Nécessairement, l'un constitue l'autre, fabrique l'autre, antérieur, mais c'est cette participation au corps et au sang du Christ qui constitue la pluralité de ceux qui sont rassemblés en un seul corps, puisqu'ils ont part à l'unique pain. Donc il faut garder ça en tête pour Paul. Alors, le problème, c'est que nous, on a un vocabulaire qui précise chaque chose. Le corps eucharistique, le corps du Seigneur ressuscité, le corps ecclésial, le corps ceci, le corps là. Lui, non, il emploie le mot corps et débrouillez-vous. Voilà. Mais c'est probablement. Alors, il n'avait pas le vocabulaire, mais il aurait pu le créer, il est assez grand pour créer ce qu'il veut comme vocabulaire. C'est intentionnel. C'est pour dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Et il le dira très fort dans le chapitre 11. Si vous participez au repas et si vous partagez le pain, sans attendre vos petits copains ou en laissant mourir de faim le voisin, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous partagez. Voilà, c'est simple, c'est annulé. C'est annulé. Si vous ne faites pas corps, alors vous annulez aussi le repas du Seigneur. Après, il est ferme. Hein. Donc, il y a vraiment cette force ici, et c'est pour ça que je vous ai pris ces deux versets, puisque le chapitre 11 qui dit « Mais l'un ne va pas sans l'autre. La participation au repas du Seigneur vous constitue encore. » Et si vous voulez détruire le repas du Seigneur, commencez par détruire le corps que vous êtes, que vous formez. Donc c'est cette idée du corps qu'il a dans la tête quand il va reprendre ici l'image du corps pour dire, au fond, cette unité de tous les chrétiens, malgré et par la diversité de leurs dons chacun, différents. Il va reprendre cette image. Et il va s'appuyer sur un deuxième source de Paul. Là, pour le coup, c'est plus du tout, et c'est intéressant le fait qu'il y ait les deux, qu'il savait manier les choses, c'est plus du tout une source chrétienne, ni même une source juive, c'est une source purement gréco-romaine. C'est une petite histoire que vous avez dans la page 3, mais je vais vous la lire, ne passez pas votre temps à chercher, vous la trouverez. Une petite histoire qui se racontait déjà comme une fable, comme une espèce d'exemple, dans les écoles de rhétorique. Et dans les écoles, sûrement que Paul a suivi, il a suivi une formation juive et une formation de rhétorique grecque. Les bonnes écoles faisaient tout ça. Et qui vient de l'auteur latin Tite-Live. Donc ça vient par le latin en plus. Donc ce que Paul a lu, ce n'est pas le texte de Tite-Live, c'est ce qu'on lui a raconté, ça s'est raconté, cette histoire. Moi, je vous lis le texte de Tite-Live. Tite-Live, c'est juste avant Jésus-Christ. Hein, c'est 59-10 avant Jésus-Christ. Donc c'est peu avant, dans l'histoire romaine. Il raconte un moment où la plèbe, donc le peuple, se révolte contre le Sénat et le Sénat craint un coup de force. On décida d'envoyer à la plèbe un parlementaire du nom de Ménénius Agrippa, orateur éloquent que ses origines plébéiennes rendaient populaire. Une fois introduit dans le camp, il eut recours à un procédé oratoire, archaïque et primitif, et se borna à raconter cette fable. Alors vous êtes prévenus, hein ? Procédé oratoire, archaïque et primitif. C'est vraiment l'exemple pour les nuls. Mais pour nous, c'est intéressant. Au temps où le corps humain ne formait pas, comme aujourd'hui, un tout en parfaite harmonie, mais où chaque membre avait son opinion et son langage, tous s'étaient indignés d'avoir le souci, la peine, la charge d'être les pourvoyeurs de l'estomac, tandis que lui, oisif au milieu d'eux, n'avait qu'à jouir des plaisirs qu'on lui procurait. Tous, d'un commun accord, avaient décidé, les mains, de ne plus porter les aliments à la bouche, de ne plus les recevoir, les dents, de ne plus les broyer. Mais, voulant dans leur colère réduire l'estomac par la famine, du coup, les membres, eux aussi, et le corps tout entier, étaient tombés dans un complet épuisement. Ils avaient alors compris, voilà la leçon, que la fonction de l'estomac n'était pas non plus une sinécure, c'est le Sénat qui parle, et que s'ils le nourrissaient, ils les nourrissaient en renvoyant à toutes les parties du corps ce principe de vie et de force réparti entre toutes les veines, le fruit de la digestion, le sang. Ils étaient bons en médecine. Faisant alors un parallèle entre la révolte interne du corps et la révolte des plébéiens contre le Sénat, il les fit changer de sentiment. Ils étaient bons princes. Enfin, voilà. On voit bien que ça se racontait dans les écoles que Paul a fréquentées. Et alors voilà qu'il le reprend. Prenez maintenant notre verset 14. Évidemment, il va le reprendre à sa manière. En effet, c'est dans un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, et un peu plus loin. Et en effet, le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied dit « parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », est-ce pour cette raison qu'il n'est pas du corps ? Si l'oreille dit « parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », est-ce pour cette raison ? Si tout le corps est œil, où serait l'ouïe ? Si tout est ouïe, où serait l'odorat ? Mais en réalité, Dieu a disposé les membres, chacun dans le corps, selon ce qu'il a voulu, écho à ce qu'on avait plus haut, selon ce qu'il veut. Si tout était un seul membre, où serait le corps ? En réalité, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Après ça, il va changer et vraiment aller vers son but à lui. Mais bien plus, les membres du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous considérons comme les plus dépourvus d'honneur, ceux-là, nous les entourons de plus d'honneur. Ce qui est chez nous le moins décent reçoit le plus de décence. Ce qui est décent n'en a pas besoin. Ce qui, dans toutes les langues du monde, s'appelle les pudendas, les membres honteux, Paul compare les faibles dans la communauté à cela. Ceux qui ont le moins d'honneur, ceux qui ont honte, ou ceux qui nous font honte, eh bien c'est à eux que Dieu a donné le plus d'honneur. Et on rejoint la parole de la croix. Et le Christ rejoignant les plus honteux, les plus ceux qu'on cache, ceux qu'on ne veut pas voir, ceux qui ont honte ou qui font honte. Dieu a organisé le corps en donnant davantage d'honneur à ceux qui en est privé, afin qu'il n'y ait pas de déchirure dans le corps, mais que les membres et tous ensemble soucient les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Et il conclut, « Or, vous êtes le corps du Christ, et ses membres, chacun pour sa part. » Voilà la démonstration qu'il en tire, c'est quand même haut de gamme. Quand même haut de gamme. Chacun, membre du corps du Christ, pour sa part, pour sa part, et les plus faibles doivent avoir le plus d'honneur. Les plus honteux doivent avoir le plus d'honneur. Voilà, ça c'est vraiment la démonstration de Paul, et encore une fois, une façon de détourner le problème, ce fameux problème qui est le plus grand, qui a le plus d'honneur, celui qui parle en langue, et de remettre au fond les chrétiens de Corinthe devant leur l'essentiel. C'est ce Dieu qui, au fond, a donné le plus d'honneur à celui qui, humainement, en avait le moins, le crucifié. Et pareil, dans la communauté que vous formez, parce que vous êtes le corps du Christ. Alors, avant de dire un mot de cette image du corps du Christ qui est très prudente chez Paul, hein, vous êtes le corps du Christ, ses membres chacun pour sa part, il ne va pas plus loin, il ne dit pas que l'Église est le corps du Christ. Voyons quand même la façon dont il va essayer, faire semblant de répondre aux Corinthiens. Parce qu'une fois qu'il a posé massivement la chose essentielle, il est quand même gentil, il revient quand même vers ses Corinthiens. Et alors il leur dit, c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de classement. Et Dieu les a disposés dans l'Église, c'est le verset 20, en premier lieu des apôtres, 28, excusez-moi, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, puis ceux qui font des actes de puissance, ensuite des dons de guérison, des protecteurs, des gouverneurs, des genres de langue. Tous seraient-ils apôtres? Tous seraient-ils prophètes? Tous seraient-ils docteurs? Tous seraient-ils capables d'actes de puissance, de dons de guérison? Tous parleraient-ils en langue? Tous interpréteraient-ils? Recherchez les dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie encore par excès, et c'est la guerre. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il reconnaît qu'il y a quand même des rôles, je ne sais pas s'il faut parler de fonction, des rôles différents. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs, déjà dans cette petite communauté de Corinthe. Est-ce qu'il faut en tirer une hiérarchie en disant, d'abord il y a les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs? Deux raisons pour dire non. Première raison, pourquoi est-ce qu'il y a quand il y a un premièrement, deuxièmement, troisièmement, on en fait tout de suite une hiérarchie? Ça peut être chronologique. Dans une église qui n'existe pas, un lieu qui... Il y a d'abord les apôtres qui viennent annoncer la bonne nouvelle rassemblée. Ensuite, il y a des prophètes qui mettent en route la communauté, lui disent un peu ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, essayent de parler au nom de Dieu. Et ensuite, quand les choses sont mises en place, il y a des docteurs qui viennent vous enseigner, vous raconter la vie de Jésus, etc., etc. Ça peut être simplement chronologique. Première raison. Deuxième raison, à peine a-t-il ébauché, premièrement, deuxièmement, troisièmement, qu'à nouveau, il brouille exprès les pistes. Tous seraient-ils? Non, pas tout le monde, chacun sa passe, voilà, etc. Et d'ailleurs, dit-il, je vais vous enseigner une voie infiniment supérieure, et ça va être cette voie infiniment supérieure, l'hymne qu'on appelle l'hymne à l'agapé. Alors, l'hymne à l'agapé, je ne l'explique pas, parce que ça ne s'explique pas. Je le lis, parce que vous pouvez le méditer, le prier, etc. Je vous montre d'abord comment Paul le rattache à la situation présente. À nouveau, on a, je rappelle la situation et je vous emmène vers l'essentiel. Il va le rattacher en disant, oui, oui, vous avez des tas de dons. Et on va reprendre les dons que vous aimez tant. Si je parle les langues des hommes et des anges, la langue des anges, c'est se parler en langue, hein, c'est une autre expression, cette prière peu compréhensible. Et que je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui sonne, une cymbale qui résonne. Si j'ai le don de prophétie, donc là il le reprend dans l'ordre des Corinthiens, hein, ce qui valorisait le plus parler en langue après les prophéties. Et que je connais tous les mystères, ça aussi, leur connaissance. Et toute la connaissance. Si j'ai toute la foi au point de transporter les montagnes, que je dis ce matin, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je partage tous mes biens, et si je livre mon corps pour me vanter, donc je peux bien mourir pour vous si c'est pour faire le fier, eh bien, que je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, n'entretient pas de rancune, ne se réjouit pas de l'injustice, mais trouve sa voie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Ensuite, il va continuer et leur dire que l'amour ne tombe jamais, les prophéties disparaîtront, etc. Et il finira même par leur dire ce qu'il préfère, lui. Mais un petit mot pour méditer cet hymne sur l'amour, je n'explique pas. je l'ai intitulé, moi, le Christ agapé. Le nom du Christ n'apparaît pas ici, ni dans l'introduction, ni dans ce texte, dont on ne sait pas d'où il vient. On l'appelle un hymne parce qu'il a quand même une forme poétique assez marquée. Ça fait partie de ces textes poétiques ou de proclamations qu'on trouve ici ou là dans les épîtres de Paul. Celui du Christ au Christ serviteur en Philippiens 2 est célèbre, avec la kénose, et dont personne ne sait si ce sont des textes qui existaient dans les communautés que Paul a connues, s'il les a récupérés à droite ou à gauche, ou s'il les a inventés. Personne ne sait. En tout cas, ce qui est caractéristique de celui-là, c'est son caractère, j'allais dire, volontairement universaliste, non marqué. Il peut être lu par des gens qui ne connaissent pas le Christ. Si vous connaissez le Christ, vous le ferez partout où il y a l'agapé, évidemment, sur tous les sujets, et ça marche très bien. Ça marche très bien, ça correspond exactement. C'est au fond une espèce de résumé de la vie de Jésus dans les évangiles. Mais on a cette espèce de caractère très fort qui fait partie pour moi de ce phénomène que j'appelle l'inculturation. Paul parle à ceux aussi qui ne comprennent pas bien ce que c'est qu'un Messie. Les Corinthiens, Messie, ils n'en ont peut-être jamais attendu. Vous voyez ce que je veux dire? Christ, ça veut quand même dire Messie, c'est très marqué à l'époque. Non, c'est vraiment un nom juif, même si c'est la langue grecque. Voilà, donc il y a ça qui est assez extraordinaire. Alors, je dis quand même un tout petit mot, pour ne pas vous laisser trop triste, sur la façon dont il termine l'affaire. Après leur avoir dit les trois demeures, l'amour, la foi, l'espérance et l'amour, la plus grande d'entre elles, c'est l'amour, il leur dit quand même qu'il va mettre un peu d'ordre là-dedans. Recherchez les phénomènes, poursuivez l'amour, recherchez les phénomènes spirituels, mais surtout pour prophétiser. Et en gros, il leur dit, c'est bien de prophétiser, vous pouvez parler en langue, mais c'est pas terrible, même s'il l'a fait lui. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne l'entend. Il dit par l'esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes pour les édifier, les exhorter, les encourager. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux bien que tous vous parliez en langue, mais je préfère que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand, voilà, il leur lâche le morceau, allez, vous voulez un plus grand, je vous dis, que celui qui parle en langue, sauf si ce dernier interprète, afin que l'Église soit édifiée. C'est la même idée, il faut que ça serve au bien de tous. Si personne n'y comprend rien, c'est pas sûr que ça édifie. Vous voyez aussi apparaître là un mot du vocabulaire paulinien, qui va aussi devenir du vocabulaire chrétien, qui est le vocabulaire, l'image de l'édification. Il y a deux sens au verbe édifier pour nous. Il y a la construction d'un immeuble ou d'une maison ou de je ne sais pas quoi, et puis il y a édifier quelqu'un par l'exemple qu'on lui donne. Et la naissance de ce double sens, elle est là. Voilà. Il est en train de dire, faut construire l'église. Construire, et c'est, alors le mot édifier va petit à petit prendre le sens moral ou exemplaire que nous lui donnons, c'est en aidant les gens à grandir. Et l'image de l'Église comme construction et comme plantation va courir tout au long de la lettre aux Corinthiens. Je termine, avant de vous donner la parole, sur ces grandes images de l'Église que Paul sème ici ou là dans ses lettres, et notamment dans les Corinthiens, qui est vraiment un bon lieu pour ça. Il a d'abord montré que l'Église était la plantation et la construction de Dieu. Ce sont des images dynamiques. La plantation s'agrandit, la construction s'agrandit. S'agrandit tellement que le disciple de Paul qui écrit la lettre aux Éphésiens fait de l'Église un immense chantier qui grandit toujours jusqu'à s'ouvrir vers le ciel et à s'élargir aux dimensions du monde. C'est pas Paul, ça sera l'auteur d'Éphésiens. Mais on voit bien que l'image est dynamique. Deuxièmement, il fait de l'Église, il dit, non pas de l'Église, mais vous êtes le corps du Christ. Et probablement d'abord, quand vous partagez le repas du Seigneur, vous êtes constitué en corps du Christ. et ses membres chacun pour sa part. Forte image paulinienne, l'Église est le temple de l'Esprit. Il le dit d'abord de chaque chrétien. Votre corps est le temple de l'Esprit-Saint en vous. Donc, respectez votre corps et le corps de l'autre. Il est le temple de l'Esprit-Saint en vous. Et puis, il le dit aussi collectivement, des chrétiens rassemblés, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Enfin, c'est une image qui va courir hein, dans le monde chrétien et qui sont extrêmement fortes. Donc, j'ai rappelé là que les images des lettres dites deutéropauliniennes des disciples de Paul, Colossiens et Éphésiens, vont, elles, s'emparer de l'image de l'Église, corps du Christ, rapidement d'ailleurs, hein, pour lui donner un grand dynamisme, mais aussi un danger. C'est qu'elle les transforme un peu en allégorie, en disant le Christ est la tête d'un corps qui est l'Église. Dès qu'on fait d'une image une allégorie, on risque de se planter. Pourquoi ? Parce qu'on chosifie les choses, on les durcit. Une image, c'est fait, une comparaison, c'est fait pour penser, pour imaginer. Ça donne à réfléchir. Il ne faut surtout pas durcir et chosifier les images. Il y a déjà les concepts qu'on durcit et qu'on chosifie. Alors, si on se met en plus à chosifier les images, c'est dramatique. Donc, les lettres Colossiens et Éphésiens ont une vision splendide de l'Église. Tirée par la tête, l'Église monte vers le Christ, avec un danger, c'est de figer l'image. Un Christ tête, une Église corps, que ça peut représenter. L'Église, dans ces images, dans cette image, a cette grandeur qu'elle coïncide peu ou prou avec l'humanité réconciliée avec Dieu. Mais ça, c'est bien après Paul. Une dernière remarque dans ces images, donc qui sont nombreuses, qu'il ne faut jamais prendre au pied de la lettre, qui sont faites pour réfléchir, pour penser, pour imaginer. Il y avait le titre d'un beau livre du bénédictin Guylain Lafont, « Imaginez l'Église catholique ». Imaginez, voilà. Ben, il faut imaginer à partir des images. Je fais quand même une réserve. Il y a un titre qui a été un grand titre de l'Église renouvelé à Vatican II, que Paul ne lui donne jamais. C'est le titre de peuple de Dieu. Parce que pour lui, le peuple de Dieu, le seul, c'est Israël. Et ça, il le garde fermement à Israël. Je ne dis pas que ça ne veut pas dire que l'Église est le peuple de Dieu, mais à condition qu'elle se souvienne que Dieu a différentes façons de rassembler les peuples et qu'il y a un peuple qui la précède et qui est premier avant lui, c'est quand même le peuple d'Israël. Ça aussi, Paul le rappelle. Voilà, je m'arrête là et je vous laisse un tout petit temps de parole. Je suis allée trop vite, vous lirez, de toute façon, voilà, c'est une introduction. Il faut entrer dans Paul et puis, voilà, ça fait probablement 30, 40 ou 50 ans que j'y suis, donc je découvre des tas de choses chaque année. Donc c'est promis, c'est inépuisable. Voilà. Je peux au moins témoigner de ça et garantir, c'est inépuisable.
J'ai une question que vous avez mis Paul à Vatican II. Qu'est-ce qui s'est passé entre Paul et Vatican II?
Vous avez un message?
Vous demandez à l'ecclésiologue, ça va vous raconter. Hop, je botte en touche. Beaucoup de choses.
Mais,
alors, ce qui est vrai.
Merci. Et je peux vous dire que 2 heures, c'est pas grand-chose.
Non, ce qui est vrai, c'est que Vatican II. Renoue, alors, prend à Paul le titre, prend le titre de peuple de Dieu qui n'est pas paulinien, mais renoue avec Paul par-dessus toute l'histoire de l'Église, et même Colossiens et Éphésiens, et par-dessus toutes les autres lettres du Nouveau Testament, sauf Paul et la lettre aux Romains, il renoue avec Paul pour rappeler que constitutivement, nous venons du peuple juif, et que c'est un peuple frère ou père, et qu'on ne peut pas faire ça. Ça, vraiment, c'est ce que Vatican II a été le premier dans l'histoire de l'Église, le premier moment dans l'histoire de l'Église où on a renoué avec Romains 9, 11. Où Paul dit, les promesses de Dieu sont sans retour et sans repentance. Dieu ne se repent pas, Dieu ne revient pas. Voilà. Et donc, à eux sont les alliances, la promesse et le Christ selon la chair. Et tout Israël sera sauvé. Ça, Paul le martèle dans Romains 9, 11, même si ça le déchire qu'une majorité de son peuple n'est pas suivi, il l'affirme avec force et Vatican II le retrouve après 2000 ans d'oubli et de tragédie quand même. Et de tragédie.
C'est une manifestation de l'Esprit Saint alors.
Certainement. Certainement. Avez-vous des questions ou est-ce que vous êtes mort? Il y a une question.
C'est pas vraiment une question. J'ai été très heureuse de voir que Paul mettait en question le parler en langue parce que personne ne comprend. Ça m'a toujours interrogée. Je me suis toujours dit, bah, Pentecôte, tout le monde comprend dans sa propre langue, et quand on commence le parler en langue, en fait, personne ne comprend.
Alors, le récit de Pentecôte retravaille sur un récit de parler en langue. Paul, et là il est un peu ironique, et puis à Corinthe, visiblement les Corinthiens le saoulaient. Hein. Ah, Paul est ironique, là, et visiblement les Corinthiens le saoulaient. Mais je disais que le récit de Pentecôte retravaillait un récit qui est un récit de parler en langue. Et dans le chapitre 14, Paul dit que lui-même a pratiqué le parler en langue. Il ne l'humilie pas. Il s'en moque gentiment pour dire aux Corinthiens, ça va bien. Ça va bien. Mais en même temps, c'est vrai.
C'est qu'il le dit, si ça ne pas à lui, ça ne sert à personne.
Voilà, il faut que ça serve à tous.
C'est une relation entre soi et
oui,
Dieu.
Oui, absolument. Ça sert à tous.
Alors qu'à la Pentecôte, finalement, tout le monde comprend dans sa propre langue.
Ça, c'est encore une autre affaire, il faut traduire. Oui, la Pentecôte, c'est l'affaire de la traduction. Tout doit toujours être traduit. Et donc, un peu trahi. Il y avait une autre question, avant de vous libérer, non?
Je voulais juste signaler, pendant que vous parliez tout à l'heure, il y avait un chant qui me trottait dans la tête et qui est un texte de Didier Rimaud.
Ah oui.
Qui s'intitule « La coupe que nous bénissons ».
Absolument.
Et qui reprenait en partie le texte.
Mais effectivement, Didier
Rimaud. Avec un peu de poésie en plus.
Voilà, Didier Rimaud dans ses chants et ses poèmes magnifiques puise largement, largement dans l'écriture. Hein. Largement. Vous pouvez le retrouver à l'arrière de tous les chants, des textes. Voilà, je vous libère. Merci de votre patience. Merci.